Bonsoir. Les syndicats indépendants de l'administration publique réclament à travers une pétition le départ du Premier ministre et du ministre de la Fonction publique. Ils reprochent à ces personnalités le renvoi des agents de l'État en fonction par les systèmes de retraite et des revocations massives. Également, la création de structures illégales au sein de l'administration publique. Allégation que rejette le ministre de la Fonction publique. Quel est le curseur de cette situation? C'est le débat de ce soir et nous en parlons avec Rachidi Kayombo, il est porte-parole des syndicats indépendants de l'administration publique. Bonsoir Monsieur Rachidi Kayombo.
Bonsoir Monsieur journaliste.
Fernand Toudienou, il est secrétaire général de la fonction publique chargé du personnel actif. Bonsoir Monsieur Fernand Toudienou.
Bonsoir, bonsoir.
Et Maître Rufin Louko, avocat et chercheur en droits humains. Bonsoir Maître Rufin Louko.
Bonsoir, messieurs les journalistes, et bonsoir à tous les auditeurs.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les syndicats indépendants de l'administration publique SIAP en cible réclament le départ du Premier ministre et du ministre de la Fonction publique. Pour ce faire, ils collectent des signatures auprès des agents de l'État depuis le 12 avril dernier. Il s'agit d'une pétition que SIAP entend introduire auprès du Parlement pour obtenir la révocation du Premier ministre et de son ministre de la Fonction publique. Le porte-parole de cette structure affirme que le SIAP se donne 8 jours pour recueillir au moins 100 000 signatures. Rachidi Kayombo revient au micro de Jacques Molima sur les griefs contre les chefs du gouvernement et les ministres de la fonction publique.
Nous avons d'abord la dernière lettre du ministre Pascal Issoumichou lui-même, qu'il adresse aux chefs de l'État, avec copie à leur regroupement syndical qu'ils appellent INAP, que nous avons aussi, que nous avons joint, n'est-ce pas, à la pétition. C'est 10 août 2012, où le premier ministre Matata donne l'ordre, n'est-ce pas, de renvoyer les agents d'État en fonction par le système de retraite et de révocation massive, de manière à engager ce que lui appelle les jeunes professionnels talentueux en créant des directions dites standards qui ne sont pas conformes aux lois, parce qu'il n'y a aucune loi qui institue ça. Il a même commencé déjà à recruter les agents fonctionnels d'État au mois de janvier dernier, 410, et d'une manière cavalière, en ne respectant pas les lois de ce pays. Donc nous pensons que tout cette fois-là, toutes les régions doivent prendre leurs responsabilités pour mettre, n'est-ce pas, l'État en sécurité et ne pas créer des troubles sociaux.
En réaction, le ministre de la Fonction publique rejette toutes ces allégations. Pascal Issoumichou reconnaît cependant que le gouvernement a décidé de mettre en place des nouvelles structures pour rendre l'administration publique plus efficace. Il rassure que la réforme engagée sous l'autorité de la primature respecte la loi et les statuts qui régissent l'administration publique. On l'écoute aussi au micro de Jacques-Yves Molima.
Il a été décidé de mettre en place des nouvelles structures qui permettent que cette administration redevienne efficace. C'est ce que nous appelons les directions standards. Et la mise en place de ces directions standards a conduit à une révision de cadre organique qui mettra en évidence un certain nombre d'effectifs supplémentaires pour certains ministères et déficitaires pour d'autres ministères. J'ai écrit, je pense que c'est la lettre à laquelle ils font allusion, je dis que ceux qui sont éligibles à la retraite, c'est une occasion et nous devons mettre à la disposition les moyens pour qu'ils aient à la retraite. C'est tout ce que les éligibles attendent. Et donc, ma lettre et la réponse du Premier ministre va dans le même sens, m'instruisant de tout mettre en œuvre effectivement pour que la carrière des agents et fonctionnaires de l'État soit protégée.
Et quelque part, il dit que l'argent qu'on prépare pour payer ces agents qui doivent partir à la retraite ne représenterait que $500 selon lui.
Ça respecte la loi.
Rachidi Kayombo, je rappelle que vous êtes porte-parole des syndicats indépendants de l'administration publique. Vous vous référez à une lettre que le ministre de la fonction publique a adressée au Premier ministre et dans laquelle il sollicite la révocation massive des agents et fonctionnaires de l'État. Qu'est-ce que la lettre dit exactement?
Je voudrais ici que toute l'opinion nationale retienne de la lettre du ministre Issoumichou traduit simplement la panique qu'il a. Parce que le plan de licenciement massif date déjà de 2012. C'est la raison pour laquelle nous avions porté plainte contre le gouvernement de la République du Congo auprès du parquet général de la République Et nous avons, par la suite, introduit une requête en annulation de la création des directions standards dans 4 directions standards par ministère auprès de la Cour constitutionnelle. Tous ces documents-là existent. Mais nous sommes surpris que la Cour constitutionnelle, d'abord, s'était depuis novembre 2015, alors que il n'y a aucune loi qui a institué la mise en place des directions standards. Le projet de loi sur la réforme des agences publiques se trouve bien au Parlement. Le Sénat l'a examiné, on attend que l'Assemblée nationale puisse aussi l'examiner de manière à ce que le chef de l'État promulgue la loi. Qu'est-ce qui fait que, maintenant, on se précipite à mettre en œuvre une ou des structures qui n'existent pas dans la loi? On a déjà recruté des agents de l'État dits jeunes professionnels talentueux, et la lettre du ministre de la fonction publique demande seulement la mise en œuvre, parce qu'il reconnaît lui-même dans sa lettre, qu'il y aura beaucoup de fonctionnaires qui perdront l'emploi et qui se demandent à quel poste et dans quelle structure ils pourraient affecter l'effectif excédentaire. Parce que nombreux parmi ceux-là qui seront remplacés parce que leurs emplois sont déjà supprimés, ne seront pas éligibles au concours compte tenu de leur âge. La lettre le dit clairement. Et on parle, n'est-ce pas, des montants disponibles, et on va même jusqu'à évoquer la disponibilité, n'est-ce pas, de la Banque mondiale pour financer la mise à la retraite forcée. Mais nous disons,
monsieur
déjà en 2009, 2010, 2011, 2012, on a mis les gens en fonction de l'État à la retraite, de cette direction, de cette ministère, pilote, qu'ils appellent eux pilotes. Mais on n'a jamais payé les indemnités de sortie. Donc nous pensons que la méthode utilisée par le gouvernement Matata est une méthode tout simplement pour tuer les gens en fonction de l'État à petit feu, parce que les 4 milliards 800 millions qui sont disponibles dans les crédits de l'État dans le cadre du budget 2016 ne peuvent pas permettre aux 220 000 agents de l'État qui veulent mettre à la retraite d'aller à la retraite dans les conditions de dignité. Donc c'est un crime économique et social. Voilà ce que nous disons. Nous avons interpellé effectivement le Parlement pour que le Parlement interroge le gouvernement parce qu'il ne veut pas nous approcher. Pour qu'on discute, qu'on voit, hein, qu'on disponibilise un plan de sortie sociale qui soit acceptable par tous, mais de manière cavalière. On voudrait envoyer 220 000 agents à la retraite avec une indemnité de sortie qui a fait 35 ans, 30 ans, de 500 dollars par an. Mais c'est inadmissible. Les gens qui ont rendu des loyaux services à la nation ne peuvent pas être de cette manière-là. Il s'agit bien d'un complot contre le peuple congolais et contre les chefs d'État.
Monsieur Rachidi, vous affirmez qu'à travers cette démarche du ministre, il y a la volonté, n'est-ce pas, de vouloir engager ce que lui appelle les jeunes professionnels talentueux. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire que le ministre aurait ces gens à lui qui voudraient, n'est-ce pas, par cette stratégie, insérer dans la fonction publique?
Oui. Mais comment on peut recruter 410 agents au même grade, c'est-à-dire de première classe, alors que les postes, ils sont divers. Il y a des critères et lorsqu'on doit accéder, n'est-ce pas, à des postes de commandement, on n'y vient pas comme stagiaire. Donc on va mettre 410 stagiaires à la tête des directions dites standards pour diriger la maison publique congolaise. Voilà ce que nous disons. Donc, c'est incompréhensible et incohérent. Donc, on ne peut pas quoi accepter ça.
Au sujet de direction dite standard, et que vous qualifiez d'illégale, le ministre reconnaît que le gouvernement a décidé de mettre en place ces directions pour, selon lui, rendre l'administration publique plus efficace, et affirme que cela est conforme à la loi.
Je vous dis que la lettre du ministre sortant de la fonction publique, en réponse aux injonctions du Premier ministre, qui, 10 août 2012, dit ceci: nous allons donner le numéro matricule aux jeunes professionnels talentueux de la Banque mondiale avec les conditions de faveur qui sont différentes des autres agents fonctionnaires de la carrière. La lettre est là. C'est versé dans la pétition qui est déjà entre les mains de toutes les autorités de ce pays. Et disons que nous avons voulu, et nous l'avons déjà introduite, la première pétition d'interpellation. Maintenant, quand les autres agents de l'État ont vu les écrits qu'ils nous ont faits, ils ont dit, ce n'est plus l'affaire des syndicats indépendants, c'est l'affaire de tous les syndicats portant les revendications et de l'espoir. La nouvelle pétition en signature, ce n'est pas seulement les syndicats indépendants,
merci,
c'est l'ensemble des syndicats, je dis bien l'ensemble des syndicats qui, à travers leurs membres, ont estimé que c'est odieux.
Merci, Monsieur Rachidi Kayombo. Fernand Toudienou, je rappelle que vous êtes secrétaire général à la fonction publique, chargé du personnel actif. Vous confirmez les allégations du syndicaliste Kayombo, selon lesquelles vous cherchez, en fait, les ministres de la fonction publique cherchent à révoquer massivement les agents et fonctionnaires de l'État?
Bon, merci d'abord pour cette question. Écoutez, je pense que et lorsque vous suivez le parcours des interventions de M. Kayombo depuis que la réforme a commencé, en fait, il est dans un processus de négation qui ne dit pas un non. Alors, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences dans tout ce que M. Kayombo est en train de dire. Et cela traduit, bon, pour de sa part et la part de tous ceux qui s'allient à ces élucubrations, une ignorance crasse de.
C'est quand même très fort, c'est trop fort,
de la Constitution et des lois de la République. Le Premier ministre a le pouvoir réglementaire. Donc, c'est qu'il peut créer des services. C'est comme à l'époque, le Premier ministre sortant a transformé les entreprises, les services publics de l'État en entreprises publiques. Et donc, c'est dans le pouvoir réglementaire du chef de l'État de pouvoir créer les services, les administrations. Et la création des structures standards entrent dans cette disposition donc légale et réglementaire donc de pouvoir reconnu au Premier ministre, c'est-à-dire en fait au gouvernement. Et allons d'abord dans les structures standards. Mais je crois que si vous pouvez vous rappeler ce que M. Kayombo a dit donc à l'époque du ministre sortant, mais vous verrez qu'il fustige toujours une démarche préméditée du gouvernement. Non. Les structures standards découlent d'abord de la loi relative aux finances publiques. Dans cette loi, étant donné qu'il y a une nouvelle procédure de la dépense publique qui va s'installer dans l'administration, et il va être créé une direction administrative et financière au sein de chaque service public de l'État. Ensuite, le gouvernement a sa réunion le séminaire de Zongo, c'était en 2012, et compte tenu du fait que nous sommes encore en retard dans la mise en place de la gestion des ressources humaines, puisque pour le moment, nous sommes au niveau de l'administration du personnel et nous ne sommes pas encore passés à l'étape de la gestion des ressources humaines, le gouvernement, dans son séminaire de Zongo, a décidé qu'on puisse installer, on puisse créer au sein de chaque ministère une direction des ressources humaines. Donc, il fallait bien sûr que cela puisse renforcer l'action de la réforme pour améliorer le fonctionnement de notre administration.
Monsieur Tuyenou, Mais si nous
aujourd'hui, nous sommes
à la
mise en œuvre de cette réforme.
Monsieur Fernand,
je crois que nous sommes dans un processus normal et le ministre actuel de la fonction publique, son excellence, le professeur Pascal Issoumichou-Mwakou, est dans la continuité de l'action donc, de l'État.
Monsieur Tugénou,
faire le conflit, ça se trouve dans les donc sur la liste de la.
Monsieur Fernand Tugénou,
prise. Enfin,
Monsieur Fernand Tugénou, vous dites que nous sommes dans un processus normal. Dans ce processus, vous évoquez la mise en place des directions standards. Certains experts estiment que c'est tout à fait normal, c'est universel, la mise en place de ces genres de structures. Mais ils dénoncent le fait que ces directions ont été mises en place pour autant qu'il y ait, n'est-ce pas, en amont, une ordonnance qui puisse les instituer.
Non, mais moi je crois que cette ordonnance-là a été prise dans le cadre de quelle constitution. Mais aujourd'hui, nous avons une ordonnance. Non, hier, c'était une ordonnace qui était en fait un acte réglementaire. Mais dans la nouvelle constitution, eh bien, les actes réglementaires sont pris par le président de la République. Et je voudrais dire, hier, à l'époque, les ordonnances, là, 082, 027, etc., mais étaient prises par le président de la République qui était en même temps, exécutant donc des lois, puisqu'il n'y avait pas de Premier ministre. Donc c'est que le président de la République exécute, donc promulguait les lois et les exécutait par ordonnance. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la même situation. Aujourd'hui, le président de la République promulgue les lois et le Premier ministre exécute donc les lois et dans ce cadre, le pouvoir réglementaire dans le domaine de l'administration relève au Premier ministre, puisque
Monsieur
la
Fernand,
Constitution dit que le gouvernement dispose de l'administration pour son action.
Nous avons compris, M. Fernand. Il existe au sein de l'administration publique un cadre de concertation appelé dialogue social. Est-ce que toutes ces questions ont été vidées au sein de ces dialogues sociaux?
Non, mais écoutez, quand il y a un projet de réforme, et dans ce projet de réforme, ou même dans ce processus de réforme, qui n'a pas commencé aujourd'hui, la réforme a commencé depuis 2003. Mais nous voyons et nous remarquons que l'accélération du processus de la réforme est partie depuis 2012 avec l'actuel gouvernement.
Donc, est-ce que le cadre social est réactivé, M. Tugénou?
Oui.
Est-ce que le cadre social est réactivé? Est-ce que ces genres de questions ont été vidées au sein du cadre social, le cadre des concertations, les dialogues sociaux?
Non, mais il y a eu la commission paritaire. Il y a eu récemment la commission paritaire, gouvernement syndicat. Mais lorsque les syndicalistes refusent de participer aux élections, et que le gouvernement organise des élections, il y a des élections sociales au sein de l'administration publique.
Merci.
Il y a des syndicats qui y participent. Mais on ne peut pas prendre ces syndicats qui ont participé aux élections en dérision.
Merci, M. Fernand Tugénou. Maître Rufin Louko, avocat et chercheur en droits humains. Une pétition contre le Premier ministre et le ministre de la fonction publique pour, n'est-ce pas, avoir entrepris une démarche visant à révoquer massivement les agents et fonctionnaires de l'État. Comment vous analysez cela?
Merci, merci, Monsieur Guy Maté, pour la question, en particulier la problématique que vous soulevez maintenant. Nous sommes encore une fois surpris de voir la démarche. Je suis en train de suivre, en tant que chercheur congolais et analyste politique, l'évolution de notre fonction publique depuis il y a maintenant plus de 20 ans maintenant. Et la revendication principale a toujours été démission-révocation. Là, on rappelle que cette réforme a commencé depuis longtemps. Les co-débatteurs d'appel ont rappelé la date de 2003. Moi, je peux même ramener ça depuis les années 90, 94, donc juste à la fin de la transition de la conférence nationale. Nous sommes là avec les années 95, 97. La réforme avait déjà commencé. Elle consiste en quoi? À dégraisser, à assainir, les tromper la fonction publique, parce que l'inefficacité est totale. Et nous savons au pays que la problématique de la fonction publique tourne autour de 1. Le vieillissement de l'ensemble du personnel. 2. Les tromper du personnel favorisé par le clientélisme politique. 3. Le très mauvais paiement du personnel de la fonction publique. 4. La corruption généralisée et l'effondrement de la conscience professionnelle. 5. Le chômage déguisé ou l'absence de travail où les gens vont au travail et ne travaillent pas. Je peux citer ici en fait, en titre illustratif, tout cet ensemble qui entraîne l'inefficacité généralisée de la fonction publique. Donc, l'inefficacité. Il était donc constant que la fonction publique doit absolument être réformée. Notre fonction publique souffre de ces mots que j'ai cités, entre autres. Elle doit absolument être réformée.
Et donc, cette réforme, elle est opportune.
Absolument incontournable. Elle a commencé depuis longtemps. Mais le drame de cette réforme, on doit retraiter. Ça veut dire, vieillissant, il faut que cela se repose. Il y a des gens qui ont 70 ans qui continuent à travailler, c'est inacceptable.
C'est vrai qu'il faut, retraiter, mais on va retraiter à n'importe quel prix.
Le drame, maintenant, écoute la suite. Le drame, c'est que la retraite est commanditée et commandée, pas par les gouvernements nationaux, mais par les institutions de Bretton Woods. Ça veut dire Banque mondiale et consorts.
Et qui ont donné beaucoup de fonds.
Bon, je ne sais pas si c'est nécessairement c'est beaucoup de fonds, parce qu'il faut vous réserver chaque fois qu'on parle de financement de la communauté internationale. Il faut vous réserver. Maintenant, là, on parle de 500 $. C'est une insulte. Quelqu'un qui a fait 40 ans de service actif, qu'il soit payé 500, 1000, 2000 dollars, c'est une insulte. C'est ça la problématique. Ça veut dire, nous voulons dégraisser, nous voulons assainir, mais nous n'avons pas le moyen. Et je crois donc que on prend le même, on recommence. Les fonctionnaires demanderont toujours la démission. Ils ont demandé hier la démission de Kibala. Je peux citer tous les ministres. À l'époque, ils avaient demandé la démission de Bahati Lukwebo, qui était ministre de la fonction publique. Ils avaient demandé la démission de Mukulungu. Donc, tout ministre qui entreprend la réforme, on demande sa démission. Mais ça, c'est encore ciblé.
Nous voulons assainir, mais nous n'avons pas de moyens. Comment vous comprenez la démarche menée par le ministre de la fonction publique?
Mais pour les fonctionnaires, ils doivent comprendre que le problème est ailleurs. Le problème n'est pas. Donc, assainir, c'est une nécessité. Regardez. La liberté ou l'effondrement des contrôles en ce qui concerne le monde du travail. Parce qu'on a recruté pour la dernière fois les inspecteurs du travail en 1981. Tous ils sont vieillissants, la plupart sont décédés. Les inspecteurs d'hygiène, les inspecteurs de finances, les inspecteurs de l'environnement, les inspecteurs judiciaires et les greffiers, les inspecteurs de toutes sortes, je peux aller même dans les douanes et consorts. Tous ces inspecteurs-là sont pour la plupart des séries, il faut absolument recruter. Mais il faut chercher le moyen. Alors, lorsqu'on cherche le moyen, à qui on fait appel? C'est encore à la communauté. Ça, c'est un échec total pour notre pays. Et ça, c'est le plus grand drame que les fonctionnaires doivent absolument...
Et qu'est-ce qui doit être fait?
Non, mais nous devons générer des recettes. Nous avons, par exemple... Nous sommes le seul pays
qui... En fait, vous voulez dire que la réforme n'a pas abouti tout simplement parce que on a dépendu, n'est-ce pas, de la communauté internationale.
Rien à faire. Et nous sommes même incapables d'organiser les élections parce qu'à plus d'autant de pourcentage, c'est la communauté internationale. Or, les élections de 2011, nous les avons organisées nous-mêmes. Ça veut dire, chaque fois qu'on va compter sur la communauté internationale, nous ne réussirons pas totalement. À la limite, nous pouvons avoir la garantie que nous allons échouer.
Alors, donc, est-ce que vous comprenez la démarche menée par les syndicats indépendants de l'administration publique qui...
Je ne comprends pas.
Qui une pétition contre le Premier ministre et les ministres...
Ça n'a pas de sens. Prenez les mêmes, donc on prend les mêmes, on recommence. Ça veut dire, on va chasser Matata Ponyo, on prend notre Premier ministre Guy Maté, il va continuer cette politique. Tant et si bien que cette politique est commandée par la Banque mondiale. Donc, on a chassé, entre guillemets,
on a remercié Kibala, qui est le plus récent. La politique de l'assainissement, des révocations, de la retraite va continuer.
Mais est-ce que les raisons qui sous-tendent, n'est-ce pas, cette pétition, ces raisons-là ne sont-elles pas...
Ça veut dire, voici le problème. Non, j'ai souligné le problème. Le problème, c'est comment assainir, comment retraiter, comment révoquer sans avoir payé. Donc, en fait, l'État est l'employeur. L'État, c'est l'employeur des fonctionnaires. L'employeur peut décider à tout moment que non, monsieur, vous partez à la maison. Pourvu qu'il respecte ce que vous appelez les droits de l'homme et qu'on s'en dit le paiement des indemnités de sortie et des salaires conformément à ce qui doit être payé. Donc, c'est ça la problématique. Et tant que donc on ne comprend pas ça, le fonctionnaire ne peut pas se battre de rester jusqu'à la tombe, comme les faux sortaient politiciens, jusqu'à la tombe au pouvoir. Non, les fonctionnaires sont des agents de l'État. L'État est donc leur employeur et doivent se battre, un, pour être mieux payés et... Si l'État prend la décision de les remercier, qu'ils sortent honorablement avec leur dit. Et c'est là la problématique que nous devons poser dans cette émission, que comment seront-ils payés? Et non, comment le Premier ministre doit être remercié, comment le ministre de la fonction publique doit être... Ça ne changera rien.
Merci.
Si la problématique demeure la même, ça veut dire l'absence de moyens.
Merci. Rachidi Kayombo, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kisangani.
Depuis Kisangani, les Congolais ont beaucoup attendu la réforme de l'administration publique parce que ce qu'on remarque dans les bureaux de l'État, c'est que ses papas ont vieilli. C'est ce qui fait petit à petit le ministre de la fonction publique et le premier ministre. N'est-ce pas une opportunité pour cette jeunesse abandonnée il y a longtemps de servir la nation et de trouver le boulot? Faut-il toujours laisser ces vieux papas qui ont déjà franchi l'âge de la retraite et continuer à travailler? À mon avis, cette démarche n'a pas raison d'aboutir à cette fin souhaitée par les syndicalistes, car étant non fondée, aussi longtemps que les jeunes licenciés continueront toujours à chômer sans emploi, ils ont eux aussi besoin de servir la nation en intégrant l'administration publique. N'est-ce pas ces syndicalistes sont contre les idées du chef de l'État qui sont celles de promouvoir la jeunesse?
Monsieur Rachidi Kayombo.
Je suis heureux que notre ami de Kisangani puisse poser cette question. Mais je crois qu'il faut poser la question telle que Maître vient de le dire, en prenant en compte tous les paramètres qui ont fait que la carrière de l'État soit un échec. Je voudrais ici illustrer en disant, nous avons été en Bouddhi en 2004. Nous avions 500 000 agents de l'État. De 2004 à aujourd'hui, nous avons doublé les chiffres, mais en termes de personnel recruté, mais qui les recrute? Ce sont les cadres politiques. Alors, ils recrutent, ils entrent dans les cabinets, à la sortie, les ministres partent, ils laissent tous les membres du cabinet comme agents de l'État, nouvelle unité. Est-ce que a-t-on dénombré de nouvelles unités dans tous les secteurs aujourd'hui? Mais nous avons des secteurs clés pour lesquels il faut absolument renouveler les personnes chaque année par un mouvement naturel, n'est-ce pas, d'entrée dans la fonction publique et de sortie, notamment la santé, l'éducation et bien d'autres secteurs. Mais là aussi, il y a des problèmes. Et pourquoi ce que les gens ne s'intéressent qu'aux finances, aux budgets, aux plans, c'est cette ministère clé pour lesquels on doit absolument tout de suite engager les 410. C'est ce qui va absorber tous les jeunes professionnels talentueux qui cherchent de l'emploi. Et lorsque nous lisons les 410, ils sont seulement à Kinshasa. La République, ce n'est pas Kinshasa. Quelles sont les structures ou les missions qu'on a données aux administrations pour que l'administration engrange beaucoup de moyens de manière à payer les fonctionnaires correctement? Qu'est-ce qui fait que la corruption, le détournement, l'impunité exige domicile dans les fonctionnaires publics? Pourquoi on ne lâche pas ça, ces facteurs-là? Parce que si on pouvait augmenter les ressources de l'État, et c'est pour cela que nous sommes allés à la bancarisation, et on devait avoir les moyens pour recruter les jeunes. Nous, on n'est pas contre les jeunes. Le mouvement naturel veut que les jeunes partent, les jeunes doivent rentrer. Et il y a aussi des jeunes parmi les nouvelles unités. Lorsque vous prenez les listes, ce n'est pas déclaratif de chaque secrétaire général de la République. Vous avez les jeunes, diplômés. Mais comment expliquer qu'il y ait une sélection autour, n'est-ce pas, des concours, où les ministres tripatouillent les PV et les concours. C'est ça la seule possibilité pour qu'on puisse réagir à la fonction publique. Non.
Monsieur Kayombo.
D'autre part.
Monsieur Kayombo.
Oui, excusez-moi, je voulais passer juste un mot. Il y a dans d'autres pays, parce que les cas que vous avez évoqués ici, c'est les cas qu'on a appliqués au Ghana, mais les conditions ne sont pas les mêmes. Hein? La caisse de retraite, qui fonctionne par exemple au Cameroun, même au Congo voisin ici, on n'a pas le même fleuri que dans notre pays. C'est parce que cette caisse de retraite qu'on met en place accompagne ceux qui doivent aller à la retraite pour aller s'occuper d'autres champs après la retraite. Donc, la retraite chez nous signifie aller à la mort. Et c'est un seul gouvernement, même le chef de l'État n'est pas d'accord d'envoyer les retraités à la mort. Il ne faut pas tromper les gens. Ceux qui entrent aujourd'hui dans la fonction publique, avec les mêmes conditions, seront des détourneurs, des corrupteurs, et ils vont commettre les mêmes vices, les mêmes délits qu'ils sont en train de déplorer aujourd'hui.
Monsieur Kayombo.
Donc, corrigeons ensemble le fonctionnement et la réforme. La réforme, ce n'est pas seulement le recrutement et la révocation.
Monsieur Kayombo, vous avez suivi Maître Rufin Louko, qui affirme que la réforme qui a commencé depuis, qui a été initiée il y a longtemps, il y a environ 20 ans, cette réforme n'aboutit toujours pas parce que, quelque part, nous sommes dépendants des partenaires extérieurs. Alors, lui propose que nous soyons, n'est-ce pas, à mesure de mobiliser les fonds sur le plan national. Vous connaissez les difficultés que nous avons dans ces pays à pouvoir mobiliser les fonds. Et avec toutes ces difficultés-là, vous pensez qu'on pourra un jour vraiment réussir cette réforme?
Je voudrais vous dire, M. Guy, qu'il n'y a pas d'impossible là où il y a la volonté, là où il y a la solidarité, là où il y a l'équité et là où il y a l'unité. Il n'y a pas d'impossible. Nous avons souffert depuis 80. Avec, n'est-ce pas, la crise de la dette. Les fonctionnaires ont fermé la ceinture, ont fermé la ceinture, attendant toujours que lorsque notre pays sera à mesure d'un. Nous avons besoin de la coopération internationale. Nous avons demandé à la coopération de nous aider à instituer plutôt une caisse de retraite qui n'est pas celle qui est dans la tête du ministre de la fonction publique actuelle, qui n'est pas celle qui est dans la tête du premier ministre actuel. Nous avons eu, de la part du chef de l'État, par lettre, nous avons des correspondances qui nous demandaient d'aller apporter cette contribution des ministres de l'État, une nouvelle philosophie qui résolverait tous ces problèmes.
Merci.
Au niveau du gouvernement.
Merci, Rachidi.
N'a jamais accepté de nous approcher.
Merci, Rachidi Kayombo. Monsieur Fernand Tudienou, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kananga.
Alpha Blessing à Kananga. J'aimerais dire ceci. Révoquer quelqu'un de son poste de service sans motif valable constitue une violation du contrat du travail. Nous sommes un État où toutes ces matières sont régies par une loi. À quelle loi est-ce que les ministres de la fonction publique et son homologue se sont-ils référés pour aboutir à cette révocation? Avaient-ils averti les fonctionnaires avant d'y parvenir? Sinon, est-ce que les deux ministres sont-ils capables de garantir les concernés sur leur futur sort? Innover l'administration publique, c'est bien, mais la procédure choisie par les ministres n'est pas bonne. Créer de nouvelles structures ne rassure pas les changements dans le secteur. L'initiative des syndicats est bonne et reste à encourager.
Monsieur Fernand Tudienou.
Bon, ben, écoutez, je pense qu'il y a un problème d'information. Je crois que c'est ça. Et que le gouvernement a arrêté dans son programme de réforme l'axe de communication et bien sûr on a tenté de reconnaître tout un processus. Mais le ministre de la fonction publique, et bien sûr, il y a le décret du premier ministre qui évoque les agents et c'est ça, ça suivi un processus normal qui se conforme à l'article 60 du statut et au règlement d'administration relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours des agents de service public de l'État. Donc c'est que les agents qui ont été révoqués, et leur révocation a requis l'avis du conseil de discipline, eh bien, ben, je crois qu'ils... il mérite bien cette sanction. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement. à révoquer les agents. On a eu à révoquer les agents, même les agents. C'est en 1986, donc à l'époque de la Deuxième République, on a révoqué les agents des services publics de l'État qui se sont introduits dans l'administration avec des faux documents, avec des faux diplômes. Donc c'est que c'est dans l'âge, donc dans le cours normal. Et souvent, c'est tous ces fauteurs donc, de l'administration qui ne viennent pas au service et qui perçoivent le salaire, qui souvent parmi tous ces gens, tous ces irréguliers, tous ces irréguliers. Donc je pense que le processus à suivre, le cheminement normal du dossier disciplinaire qui aboutit à la révocation, il n'y a pas à redire encore là-dessus.
Alors, M. Tudianou, cela veut dire que vous voulez révoquer les agents qui ont été engagés irrégulièrement au sein de l'administration publique, parce qu'ici, ce que Rachidi Kayombo est en train de dénoncer, c'est le fait que vous voulez mettre de façon massive à la retraite ou révoquer massivement les agents de l'État sans pour autant respecter, n'est-ce pas, la procédure. Mais vous parlez plutôt des agents qui ont été irrégulièrement engagés au sein de l'administration publique. Est-ce qu'il y a moyen de faire une mise au point?
Non, je pense que dans la mise en place des circuits standards, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement dans la mise en place des circuits standards, mais aujourd'hui, le ministre de la fonction publique, je vous donne l'information, vient de signer, vous avez 9 arrêtés portant agrément provisoire des cadres organiques de 9 ministères, c'est-à-dire que 8 ministères, y compris l'administration de la primature. Donc c'est que les agents de carrière de service public de l'État, eux, par le statut, toute situation est réglée par le statut. Il n'y a pas eu suppression des directeurs de service. On a créé de nouvelles structures, des structures standard, donc commune à toutes, donc standard commune à toutes les administrations. Et ce sont d'ailleurs, je peux dire, de nouveaux emplois qui se sont créés au sein des ministères.
Merci.
Et tout agent a opportunité de postuler.
Merci Maître Rufin Louko. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kananga.
Maître Adrien Ilobakwei Tero à Kananga, au Kasaï Central. Je pense à mon humble avis que l'idée est bonne, mais je déplore la démarche ou la procédure, car je me dis pourquoi ne pas saisir d'abord la justice pour obtenir l'annulation de la décision et acte prise par le Premier ministre et le ministre de la fonction publique, car je crains que la démarche de M. Rachidi ne puisse pas échouer celle tendant à récolter les signatures, et surtout même s'il réussissait à récolter les signatures, je me demande quel sera le comportement des députés de la majorité face à cette question cruciale.
Monsieur Rufin Louko, il fallait commencer d'abord par saisir la justice avant d'initier cette pétition, comme le propose Monsieur Ilobakwei.
Non, je crois tout simplement que la cible est claire, mais la méthode est mauvaise. La cible, c'est s'attaquer.
La bonne méthode serait quoi?
S'attaquer contre, c'est la cible, s'attaquer contre la révocation, la mise à retraite massive. Mais la méthode de demander la démission, elle est en quelque sorte redondante.
Mais Kayombo a affirmé qu'ils ont saisi même la Cour constitutionnelle.
Oui, mais la Cour constitutionnelle a une procédure. Ça peut prendre tout l'état que ça prend. Ça peut prendre tout le temps que ça prend.
Alors comment vous expliquez le fait que, alors que la procédure de la Cour constitutionnelle n'a pas encore abouti, et déjà il y a cette lettre-là qui est initiée par le ministre de la fonction publique?
Oui, mais nous savons comment notre justice fonctionne. Nous savons comment. D'ailleurs c'est ça la dichotomie lorsqu'on parle de justice. Et c'est ce qui détruit l'administration. Parce qu'en quelque sorte, ce qui entraîne cette agitation, c'est que les anciens fonctionnaires ont appris qu'il y aura des directions dites standards dont les agents auront chacun 1000 dollars, l'équivalent en francs congolais, alors que la plupart des fonctionnaires ne dépassent pas 200 dollars. C'est exactement ce qui est en train de faire remoudre à la justice aujourd'hui, où les membres du même corps de la justice, qui sont à la Cour constitutionnelle, reçoivent 9 et plus
1 000 $, alors que le premier président de la Cour suprême, la Cour de cassation, ou le PGR, le procureur général de la République, ne dépasse personne parmi eux, les chefs de ces corps-là, ne dépassent 3 000 $. Cette différence-là, cette tension inexpliquée salariale, est à la base de tout ça. C'est-à-dire, on doit harmoniser.
Et donc, le cadre de concertation n'a pas été.
On ne le dira jamais assez. C'est tout cet ensemble de poids des mesures inexpliqués qui justifie toutes ces tensions-là, dont la République n'a pas besoin. Ces tensions inutiles.
Maître Rufin Loco, on vous reproche, vous, défenseur des droits humains, du fait d'avoir abandonné les syndicalistes dans cette lutte pour la promotion des droits des travailleurs. On dit que vous ne voulez pas vous associer à leur lutte.
Non, c'est-à-dire, bon, d'abord, nous avons commencé par dire que la démarche n'est pas bonne. Ils ont associé quel défenseur des droits humains. Voilà, il vaut, vaille qui vaille et celle. Parce que dans ce genre de choses, vous vous rappelez, lors du syndicat, lors de la grève des magistrats, qui ont porté le ton pour les magistrats, ce sont les défenseurs des droits humains. Que nous sommes et d'autres. C'est-à-dire, s'ils procèdent mal.
Vous vous intéressez à la situation des fonctionnaires du.
Rien à faire. Il y a beaucoup d'ONG de droits de l'homme qui ont dénoncé.
Parce que ONG,
qui ont dénoncé.
Apparemment, pas
aujourd'hui, pour qu'on arrive. Non, aujourd'hui, pour qu'on arrive. Aujourd'hui, pour qu'on arrive entre 700 et 1 200 $ des magistrats. Qui se sont battus? Ce sont les défenseurs. Des droits humains, c'est pas les magistrats et celles.
Alors, à votre avis, ça sera sous votre conclusion, qu'est-ce faut-il faire pour rendre efficace, n'est-ce pas, l'administration publique en RDC?
L'assainissement est incontournable. Les nouveaux recrutements, incontournables. Les retraites massives, incontournables. Qu'est-ce qu'il faut faire? Notre gouvernement investit le moins. Par exemple, à l'est du pays, nous avions besoin qu'on ressuscite les entreprises minières, nationales ou mixtes. Nous n'avons aucune entreprise qui exploite les coltans au Congo. C'est un scandale. Nous n'avons aucune maison cellulaire nationale. C'est un scandale. Nous n'avons pas en dehors de Bukangalonzo. Qu'est-ce que nous faisons en termes d'investissement pour que nous générions des recettes comme la Gécamine donnait 60 à 80% du budget national, l'Okimo, l'Amiba et consorts. Quelles sont les entreprises aujourd'hui en laquelle on investit? On investit dans la SNCC, le Traco, ou l'ONAFRA, et on dit que ce n'est pas un service générateur de recettes.
Et ça ne va pas générer. Tout dépend de la gouvernance.
Investir. Vous dites?
Tout dépend de la gouvernance.
Bon, c'est-à-dire, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'investissement au pays pour que ça génère des recettes. Nous avons perdu les capacités productives depuis plus de 20 ans. Il faut donc investir dans l'agriculture, dans l'élevage, en particulier dans les mines, c'est parmi nos ressources importantes pour que nos entreprises nationales ou mixtes puissent générer des devises et nous aurons le moyen de réformer cette administration par la demande de la communauté internationale.
Merci.
Parce que c'est comme ça peut 20, 15, 30 ans, c'est la communauté internationale qui nous pousse.
Merci.
À toutes ces réformes et c'est pourquoi ces réformes-là aboutissent à ne pas payer ces fonctionnaires-là qui pour la plupart auront nié de leur service à la.
Qu'est-ce qu'il faut pour rendre efficace l'administration publique en RDC? Ça sera sous votre conclusion.
Il y a une réflexion globale qu'il faut faire, tel que dit le maître. Mais également, il faut commencer par par avoir une politique incitative. La caisse de retraite est une clé de voûte pour la sortie honorable et le respect des droits de l'homme. Nous avions déjà fait des propositions auprès du chef de l'État qui avait agréé. La prise en charge des soins de santé devait funéraire.
Merci, Monsieur Kayombo. Fernac, tu dis-nous votre conclusion.
Bon, la conclusion, c'est que la réforme est sanitaire pour l'administration publique, la tête de retraite.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique. Et merci à toute l'équipe Dialogue entre Congolais, Alain Rung, qui l'écoutait sous la supervision de Martin Sabujangwe. À la présentation, Guy Maté, merci à ce vendredi pour un autre débat, cette fois-là, dans la tribune de la presse.